sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les gens. Allez-y.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez-y, chez Ferb, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est vraiment trop intéressant. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool. Sortez les gens parce que dans les
derniers temps, vous voulez sortir.
Au chien bleu, chez le veto, s'il vous plaît.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Vous sortiez tous avec nous.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours accompagné de Marie. Salut Marie.
Bonjour, bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Claire Barbieux, responsable à la culture de l'UINE, à l'occasion de la 26e édition du festival Bruce Mandel. Un événement qui se déroule sur tout le mois de mars, mois de la journée des droits de la femme, qui met en avant les artistes féminines autour de plein de formes d'art. Danse, théâtre, cinéma, littérature, musique, exposition et conférences, elles sont à l'honneur aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour et enchantée d'être parmi vous pour vous présenter le festival.
Bien, on est très contents aussi de vous avoir. Donc Claire, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire quel est votre rôle et depuis combien de temps est-ce que vous participez à l'organisation de ce festival ?
Oui, donc Claire Barbieux, moi je suis responsable du service culturel de la ville de Luynes, donc une commune de la métropole de Tours, en charge notamment d'une programmation d'une saison culturelle voilà, pour un lieu qui s'appelle La Grange, le centre culturel de Luynes. La commune de Luynes participe au festival quasiment depuis la création du centre culturel et le lancement de sa première saison culturelle, c'était la saison 16-17, donc ça va faire, on arrive à 8 ou 9 ans maintenant. Voilà, mais le festival, comme vous l'annonciez, est dans sa 26e édition, donc et a déjà presque à sa maturité, on va dire, et a déjà une longue histoire avant cela, et a démarré au début entre le rapprochement de deux communes, La Riche et notamment Jouer-les-Tours avec l'espace Malraux. Et puis après, ça a grossi, ça s'est enrichi de nombreux partenariats à géométrie variable. Voilà, il y a des communes qui rentrent dans le festival, qui sortent à d'autres moments. Et voilà. Et donc maintenant, ça fait ce festival aujourd'hui avec quasiment 12 lieux, villes participantes, 19 lieux différents et puis bien au-delà de l'agglomération tourangelle puisque il y a également la commune de Mont en dehors de la métropole de Tours. Et il y a aussi la Grange Théâtre de Vaud-Garnier depuis très longtemps à Pont-Durand qui participe. Donc c'est riche, varié, sur Tours, mais aussi en ruralité, pour vous proposer un beau festival qui défend vraiment la création au féminin depuis le début et pour encore longtemps.
Oui, et donc plein d'acteurs sont mobilisés.
Et donc, qu'est-ce que le festival Bruce Mandel ?
Alors le festival Bruce Mandel, donc, c'est un festival pluridisciplinaire. Donc vraiment, nombreuses disciplines sont représentées. Musique, exposition, théâtre, danse, jeune public, des rencontres aussi en médiathèque des séances de cinéma. Vraiment tous les arts autour de ce mois de mars. Et pour défendre donc, la création au féminin, donc avec des créatrices femmes. Et aussi pour certaines pièces présentées et certains spectacles, des créations engagées autour des droits des femmes, de l'égalité des femmes.
Et alors, ça fait beaucoup de monde à citer si on se met à tous les énumérer, mais quels organismes sont partenaires donc, pour l'organisation de ce festival ? Vous l'avez dit, c'est dans pas mal de communes. Dans quel lieu on va pouvoir donc retrouver ce festival ?
Alors rapidement, donc il y a des communes, hein, donc des services culturels comme le nôtre, Notre-Dame-d'Oé, Saint-Cyr-sur-Loire, la Riche, la ville de Tours avec à la fois donc le service jeune public de l'espace Jacques Villeray, mais aussi le bateau Yves qui là est une SCOP, la ville de Saint-Pierre-des-Corps, la ville aux Dames, Ballon-Mirée, l'espace Malraux à Jouer-les-Tours, le service culturel de Mont, le service culturel d'Azel Rideau, et puis donc la Grange Théâtre de Vaud-Garnier à Pont-de-Rouen.
Donc plein de beaux mondes. À quel public est-ce qu'il est destiné ce festival ?
Eh bien à tous les publics en fait, vraiment du tout petit, du spectacle familial eh ben, jusqu'aux ados, aux adultes, et voilà, jusqu'à 99 ans et au-delà.
Ouais, y a quelques spectacles donc jeunes publics qui sont proposés.
C'est ça.
Mais la notion d'égalité des genres, ça peut être un peu compliqué à comprendre pour un jeune public. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez développer, des animations à destination d'un jeune public pour rendre ces questions un peu plus parlantes?
En tout cas, le jeune public prend sa place dans le festival depuis quelques années. D'abord porté, c'est vrai, par l'espace Jacques Villeray, dont c'est vraiment la mission de porter le jeune public. Mais voilà, d'autres collectivités ou lieux, en tout cas, ont également inscrit des spectacles jeune public. Nous, à Luyn, on propose aussi un spectacle jeune public à la Grange avec l'œil du loup. Après, c'est, pour le coup, pour nous, c'est pas forcément un spectacle qui parle du droit des femmes. Voilà, c'est plutôt un spectacle où ce sont une créatrice femme. Voilà, vraiment une femme comédienne, seule en scène, qui fait tout, qui a créé tout son univers et qui porte tout ça. Là, c'était plutôt pour mettre en avant une créatrice féminine. Mais bien sûr, c'est des choses qui pourraient être développées et amenées par la suite dans les propositions artistiques. Après, c'est d'abord l'artistique aussi qui prime dans ce qu'on défend. Enfin, c'est aussi ce prisme-là, beaucoup des coups de cœur artistiques qu'on défend. Et par le biais de la création, on emmène ensuite des questions aussi de société défendues par ces artistes-là.
Et donc, ça fait partie des enjeux autour des artistes féminines?
Oui, ça fait, bien sûr, ça fait partie toujours des enjeux. Hein, et puis l'état du monde actuel fait que voilà, la place des femmes n'est malheureusement toujours pas forcément en train de progresser partout dans le monde. Donc ces questions-là, au bout de 26 ans, elles restent toujours à défendre et d'actualité. Voilà, il y a normalement plusieurs spectacles qui parlent de femmes, de parcours de femmes à découvrir.
Et alors, si on fait un zoom sur, dans le secteur culturel, quels sont les enjeux autour des artistes féminines?
Ça reste, bien sûr, les questions de visibilité. Voilà, même si ça tend quand même à progresser, hein, notamment, voilà, y a vraiment des efforts qui ont été faits, plutôt au niveau des scènes nationales, des choses comme ça, avec vraiment voilà, des choses qui progressent. Mais voilà, dès qu'on est quand même dans des têtes d'affiche en musique, la différence, elle reste flagrante, en fait, sur ces questions-là. Je pense que ça reste important de défendre cette visibilité dans les programmations, en fait.
Et alors hier soir, c'était le 26 février, c'était la soirée de lancement donc, du festival au Bateau Ivre avec les groupes Maida Veil qui étaient en tournée européenne et qui vient de Stockholm et Madame. D'après ce que vous en avez entendu, est-ce que le public était au rendez-vous?
Vu cette programmation très dynamique choisie par le Bateau Ivre, je pense qu'ils ont dû passer une très bonne soirée.
Comment étaient sélectionnés les artistes, du moins pour l'espace
Pour la Grange, à Luyn,
pour la Grange.
Pour la Grange. Et en fait, c'est parmi mes envies de programmation. C'est voilà, c'est de la saison, en fait. Je fais le choix d'un spectacle d'une créatrice féminine qui aborde une question des droits des femmes ou engagée, en fait, sur ces questions. J'ai envie, moi, de proposer au festival, en fait. Oui. Donc c'est vraiment une programmation collective. Et d'ailleurs, le festival n'est pas porté par une structure juridique associative. C'est vraiment un collectif de programmateurs qui se mettent ensemble pour faire toutes ces propositions, en fait. Et donc, on a vraiment chacun notre liberté de programmation avec ce fil de directeur sur lequel on s'entend tous, qui est de défendre l'exigence artistique, la création d'artistes féminines. Et puis, parfois aussi, de mettre en avant, voilà, à travers ces œuvres-là, soit les droits des femmes, des questions aussi de parcours de femmes. Voilà. Donc, c'est ces trois piliers. Et après, chacun est libre aussi de proposer des choses au festival, en fait.
Et alors, qu'est-ce que vous, personnellement, vous aviez envie de mettre en avant?
Eh bien, donc, on a ce spectacle, L'œil du loup, dont on a parlé. qui aura lieu mercredi 12 mars à La Grange, qui est en fait un conte théâtral et plastique, visuel en fait, d'après un roman de Daniel Pénac, qui est voilà, la rencontre entre un vieux loup borgne et un jeune garçon. Donc un véritable voyage en fait à travers de l'Alaska, on va dire, au Sahara, et puis surtout un voyage visuel, parce que c'était vraiment une prouesse. C'est un seul en scène où elle développe différentes techniques, en fait, une véritable performance plastique où elle développe du théâtre d'ombre, du dessin sur sable, voilà, du dessin sur, à l'encre aussi, sur l'eau. Donc c'est assez, voilà, c'est assez magique, et puis c'est une magnifique histoire, en fait, l'œil du loup. Après, on a aussi une exposition d'une artiste féminine, Nathalie Villeneuve, Explosion de couleurs. C'est vrai que depuis le début, comme on est aussi assez proactifs, on va dire, sur les arts visuels, on a aussi une programmation d'exposition à La Grange. On a toujours souhaité aussi voilà, mettre en relief et promouvoir aussi des plasticiennes du secteur. Et puis, grâce à notre partenariat aussi avec Cinéoff, on accueille le 27 mars Sarah Bernard, le film de Guillaume Niclou, voilà, pour qui revisite ce parcours de cette grande tragédienne et aussi cette femme très libre et indépendante. Il y aura aussi un autre film, peut-être on peut en parler maintenant, Cinéoff, voilà, qui est donc une association de cinéma itinérant. Qui œuvre sur toute l'Indre-et-Loire viendra aussi, vient aussi à Ballan-Miré avec le film Lee Miller d'Hélène Couras le 6 mars. Il y aura deux séances dans la journée. Et donc là encore, c'est un beau parcours de femme, puisque Lee Miller, c'était la muse en fait de Man Ray et qui ensuite est devenue photographe de guerre, une des premières femmes photographes de guerre. Donc c'est pas rien.
Super, on aura l'occasion d'en reparler de ces grandes figures féminines. Merci à vous donc pour cette présentation. On va pouvoir y revenir juste après une pause musicale sur le 99.5 FM. Qu'est-ce qu'on écoute, Samuel ?
On va écouter une artiste programmée dans ce festival avec son titre « Femme phare » de Miss Parrot, un son tiré de son album sorti en mars 2024 nommé « L'essence vagabonde ». Vous pourrez la retrouver le vendredi 28 mars 2025 à 20h30 au Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps. C'est tout de suite sur Radio Campus Tour.
Femme, femme, phare, écoute tes besoins, ose dire un oui, un non, rien, ose vivre, change ton destin. Vie, 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 t'as le droit d'exister, estime tes rêves, tes idées légitimes, ose nous inspirer. Rappelle-toi que tu n'es pas seule, des sœurs aux quatre coins du monde, chez elles, avec toi chaque seconde. Là-bas, on se ressent.
Vous venez d'écouter Miss Parot avec son titre Femme phare sur Radio Campus Tours. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près au festival Bruissement d'ailes. Je rappelle que nous sommes avec Claire Barbieux. Parlons programmation. Quels sont les événements phares de Bruissement d'ailes en 2025?
Alors, il y a plusieurs spectacles. J'aimerais peut-être vous mettre en avant. Notamment, il y a une création à venir à Saint-Cyr-sur-Loire, MU. Donc, c'est un spectacle de danse de Marie Chaperon, voilà, qui travaille sur le corps paysage organique. C'est sa deuxième pièce chorégraphique, sonore et plastique. Voilà, c'est un très beau travail à découvrir, voilà, vraiment très original. Donc, je vous invite à aller voir à Saint-Cyr. Et puis, il y a aussi une super pièce de théâtre présentée à Saint-Cyr-sur-Loire. Je ne peux que vous inciter à aller les voir. Nous, on reçoit Molière de la compagnie Grand Tigre ce soir à 20h30. Et donc, il y a le deuxième volet de leur triptyque, Tchekhov, donc, qui passera le 13 mars à Saint-Cyr-sur-Loire. C'est complètement fou, bien barré, leur travail souvent. Et donc là, pour le Tchekhov, ça revisite l'œuvre et la vie de Tchekhov à travers ses textes. En fait, c'est un montage toujours très astucieux avec trois comédiennes qui reprennent les rôles en fait des personnages de sa vie, son père, ses frères, sa sœur, ses amours, sa femme. Voilà, donc c'est toujours assez dynamique comme théâtre.
Ça donne envie.
Voilà, allez-y. Y a tellement de choses magnifiques dans ce festival. Et puis, y a quand même le concert à ne pas louper aussi de Claire Diterzi, de Béjaïa Hamon, ce qui à la fois qui parle d'un parcours de femme, Tassadit, hors du commun, qui est née en Kabylie, qui est arrivée donc en France en 1955, qui élève huit enfants. Voilà, et qui va travailler en tant que femme de ménage. Et donc c'est porté par une extraordinaire comédienne, Sadia Bentayeb, et c'est réinventé cette histoire par Claire Diterzi. Et donc comme vraiment un spectacle musical, puisque c'est une musicienne, hein, Claire Diterzi. Voilà, ça mêle donc théâtre, composition, images projetées, voilà, avec un trio de musiciens en live. Ça ne peut être que très émouvant, je pense. Aussi, je peux peut-être vous parler de En avant toutes de la compagnie Boom. Donc, on parlait voilà, des femmes oubliées, tombées des héroïnes en fait, à remettre sur le devant de la scène, on va dire. Et donc là, Zoé Grosso, elle met en scène un spectacle avec quelques petits bouts de papier, on va dire, c'est du théâtre de papier, qui vont ressusciter voilà, ces héroïnes tombées dans l'oubli. Donc c'est vraiment une leçon d'histoire au féminin. Et c'est vraiment gorgé de facéties et d'énergie. Voilà. Et donc elle y parle de celles dont on ne parle jamais. Et puis peut-être pour revenir peut-être sur des spectacles ados, jeunes adultes notamment, il y a le spectacle Suturé qui est vraiment très intéressant, qui est le 7 mars prochain à Notre-Dame-d'Oé, qui parle en fait de la question de... Quand on arrive à l'orée, on va dire, de l'âge adulte, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste à l'endroit où on a vécu, où on a grandi? Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage culturel, familial? Donc, en fait, ça met en scène deux jeunes femmes à 15 ans et à 25 ans, à deux moments de leur vie. Avec Marion Godon, qui est la metteuse en scène. Donc, c'est la compagnie Maintenant ou Jamais.
Et alors, dans ces événements phares, il y a la conférence aussi du 14 mars sur la vie et l'œuvre de Frida Kahlo qui a affiché complet très rapidement. Comment est-ce qu'on peut expliquer un engouement pareil?
C'est vrai que ça se passe à la Microfolie de Saint-Pierre-des-Corps, c'est lié à la bibliothèque, je crois, de Saint-Pierre. Et c'est vrai que souvent, sur des petits formats comme ça de conférences en médiathèque ou bibliothèque, il y a un public souvent fidèle et qui a envie de s'informer, en fait. Nous aussi, on se constate à la médiathèque, là, tous les événements qu'on organise... De conférences, de rencontres, il y a aussi une soif, je pense, et une avidité aussi du public de...
Frida Kahlo continue énormément à inspirer. Ouais. Vous en avez cité plein, les pièces de théâtre qui sont à l'affiche, elles sont pour la plupart très engagées et elles ont une portée politique. Sur quelles problématiques est-ce qu'elles se focalisent ?
Et ben là, on a parlé notamment de quelques pièces qui mettaient en avant, en tout cas pour Boom, Parcours de femme. Mais Tchekhov, finalement, ça parle de la vie d'un homme, mais vu notamment à travers les femmes de sa vie. Mu, c'est vraiment un solo de danse. Enfin, non, c'est un duo, excusez-moi. Je suis sur sa création précédente. Un duo de danse avec deux artistes femmes au plateau et une créé par une artiste femme. Donc, c'est vraiment très varié, comme vous pouvez le voir. Il y a des choses engagées, il y a des choses où c'est la beauté de la création et qui parle de tous les sujets possibles, en fait. Après, on peut peut-être y citer comme pièce toujours qu'on accueille depuis plusieurs années dans le festival. 37 heures revient encore cette année. Je pense que ça sera la troisième fois. De la compagnie In Lumea, d'Elsa Adroger. Donc cette fois-ci, ça sera le 22 mars à Azel Rideau. Qui parle de la question des violences faites aux femmes, pour le coup, et du consentement. Et donc.
Qui a beaucoup tourné.
Elle a beaucoup tourné, mais elle a toujours autant besoin de tourner et à chaque fois elle rencontre toujours autant son public, tellement c'est une pièce qui est vraiment je pense toujours essentielle sur comment après on sort de cette violence, comment on en parle aussi, enfin c'est aussi une pièce qui est sur la reconstruction en fait aussi et peut-être rebondir sur le fait que le collectif pour la première année a décidé aussi d'attribuer un label à une nouvelle création à venir. Au vu du partenariat aussi mené depuis plusieurs années avec la compagnie Unumea, c'est sa prochaine création. Donc, que je dise pas de bêtises. Origine, qui a été labellisée en fait Boris Mandel. Et donc, qui est accueillie en résidence notamment à Oesia, mais pas que. Je crois qu'elle est aussi soutenue par d'autres partenaires du festival, notamment Saint-Pierre-des-Corps, qui les accueillera aussi en résidence. Et il y a une sortie de résidence aussi qui est prévue à l'occasion, le 27 mars à 18h, pour découvrir une étape de travail de cette prochaine création. Et là, qui aborde un tout autre sujet.
Il y a quatre expositions qu'on retrouvera tout au long du mois de mars, une de Mélanie Charrier et une d'Estelle Dell, toutes les deux à Notre-Dame de Doé, dans la salle Colette, et une troisième de Nathalie Villot, exposition de cœur,
explosion
de couleurs, merci, à la Grange, à Luynes, et une d'Angélique Cormier à la médiathèque de la Riche. Ces expositions, qu'est-ce qu'elles viennent présenter et quelles techniques elles emploient?
C'est assez varié, parce qu'on a de la peinture, des choses, on va dire, plutôt de mise en espace du volume, on va dire, de manière large. Une artiste, pour Mélanie Charrière, qui travaille, qu'on peut classer dans plutôt le collage, technique mixte. Pour les ateliers Kinkinati, on est entre le design, en fait, et les arts visuels, vraiment un beau panorama finalement de qu'est-ce qu'est la création contemporaine aujourd'hui.
À travers ce magnifique prisme féminin. on évoquait donc Frida Kahlo à l'instant, il y a plusieurs grandes figures féminines qui sont mises en avant, Barbara avec la représentation de Marie-Claude Pietragala à l'espace Malraux, Lee Miller, vous l'avez dit, avec la projection du film biographique de Hélène Curras, ou Sarah Bernhardt, avec le film de Guillaume Niclou, pour en citer quelques-unes. C'est important d'avoir la représentation de personnalités féminines qui se sont illustrées au fil du temps.
Oui, ça, je pense que c'est vraiment important, déjà, pour les jeunes générations, d'avoir aussi ces modèles féminins à mettre en avant dans ce festival. Et puis, et pour toutes les générations, de redécouvrir ces parcours de femmes sous différents prismes en fait et leur histoire, puisque je pense que par exemple pour les mineurs on la connaît tous et toutes pour beaucoup en tout cas en tant que muse de Man Ray, mais en tant que photographe de guerre qui la connaissait sous cet angle là
Mais c'est ça, je pense qu'on est très peu d'entre nous, en fait. On oublie énormément de parcours qui ont été très riches. Ouais.
Chacun a une réception différente des créations qui sont proposées, mais pour vous, quel est le format qui est le plus impactant pour dénoncer les inégalités de genre?
Je pense justement qu'il n'y a peut-être pas un format défini à l'avance. C'est peut-être justement cette variété d'approches et de qui va toucher des sensibilités différentes aussi. On va être peut-être plus touché par des mots mis en musique ou par un récit au théâtre ou par une œuvre visuelle. En fait, ça aussi, ça dépend de chacun. Et c'est la force de ce festival de l'aborder de différentes manières.
Mais justement, vous, qu'est-ce qui vous touche le plus?
Ce qui, moi, me touche le plus, ça sera peut-être le théâtre, mais...
Est-ce qu'il y a un événement que vous attendez particulièrement?
Je pense que j'ai peut-être très envie d'aller voir en avant toute, hein, pour toutes ces héroïnes oubliées, mais... On aimerait être partout, en fait.
Donc, on en sait déjà plus sur le festival Bruce Mandel. On va faire une nouvelle pause musicale avec Maida Vale, donc, qui était à la soirée d'ouverture au Bateau Ivre hier soir, le 26 février, et le titre Perplexity.
Spend every day all alone with your thoughts. Adversity strengthens the core. Too much going on right outside the door, and perplexity swings back and forth. Always think twice about everything said. No one has your back all the time. Talk to a stranger, your secrets reveal. Feel silence and no one's let down. What you see is not what you get. You wouldn't understand. Right and wrong get mixed in your head, and perplexity swings this and that. Perfection demands its victims, you see. Isolation feeds anxiety. Somehow, every chance they will use your good heart. What you see is not what you get. You wouldn't understand. We'll be right back.
c'était Perplexity de Maida Vale sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez et avec nous Claire Barbieux du service culturel de l'UIN pour nous présenter la programmation du festival Brice Mandel, une programmation qui, on l'a dit, s'est faite collectivement avec tout un ensemble de communes de la métropole, mais pas que, autour donc de la mise en avant d'artistes féminines. Est-ce que vous avez remarqué une réception différente du festival après Mito?
Eh ben, peut-être un intérêt éventuellement un peu médiatique, mais je ne suis pas sûre qu'on ait eu vraiment une réception différente du public, en fait.
C'est, parce que c'est le public qui vient, c'est un public qui est déjà sensibilisé ou c'est vraiment des gens de tout horizon qui souhaitent s'informer ? Enfin, s'informer, ou simplement profiter de spectacles, d'ailleurs.
Bah là, c'est à la fois les publics de nos salles, les publics qui circulent, en fait, sûrement des fidèles du festival aussi. Et voilà, et on essaye, c'est vrai, depuis quelques années, d'ouvrir vraiment par la diversité de la programmation au public le plus large plus possible, vers les jeunes, et pour porter aussi ces questions-là.
Est-ce qu'on a fait un pas en arrière ou un pas en avant sur la reconnaissance des artistes féminines ?
En tout cas, je pense qu'à l'échelle maintenant des programmations, on va dire, de ville, les programmations féminines ont vraiment la belle place. Enfin, là, je pense que vraiment sur des programmations à cette échelle-là, de saison, on va dire, culturelle, on approche plus de l'équité. Après, voilà, c'est dès qu'on passe un peu des pas sur des gros festivals, en fait, dès qu'on rentre en une des grosses machines où les questions de l'argent commencent à primer, où là il y a plus, beaucoup plus grande différence, en fait.
Il y a un peu plus à batailler, ouais.
Comment est-ce que le festival s'adapte à une nouvelle génération et à rester pertinent et innovant?
Eh ben, on s'adapte avec des nouveaux partenariats tels que celui du Bateau Ivre, qui nous amène une programmation musicale, avec ils savent dénicher aussi des nouveautés de la scène musicale, par exemple. Là, c'était le cas de cette belle soirée hier. Par aussi l'importance qu'on donne au jeune public. On a parlé de Villeray avec Blanc Faucon, je ne sais pas si je l'ai cité, la pièce qui est programmée, mais il y a aussi, par exemple, la médiathèque de la Ville aux Dames qui présente donc une lecture théâtralisée avec une jeune compagnie aussi, Smog, avec le spectacle Méchant. Et puis, il y a aussi à la médiathèque de la Riche avec Angélique Cormier qui est exposée, mais qui est aussi d'abord... une créatrice visuelle qui réalise des origamis géants, mais qu'elle met en scène, en fait, et qui est aussi musicienne, et notamment dans des spectacles musicaux. Donc ça, c'est une approche. Et on essaye toujours de se renouveler. Ça, c'est un défi permanent.
Le Covid est passé par là. Il n'y a pas eu d'édition en 2021. En 2022, il y a eu un arrêt brutal du festival. Comment s'est passée l'attente du soulèvement des restrictions ?
Eh ben, l'attente du soulèvement. on a tous, comme vous l'avez compris, on est tous professionnels, programmateurs, à l'année. Donc, on ne s'occupe pas que du festival. Donc, Ça a été, je pense, pour tous un grand crève-cœur. Et après cette ouverture, il a fallu prendre le temps de refidéliser le public. Ça a été long pour certains, dans certains domaines, notamment le cinéma, que les gens reviennent, refassent confiance. Mais là, je pense que ça y est, on a passé ce cap.
Et c'est maintenant une machine qui est bien rodée ou vous rencontrez toujours des difficultés parfois dans l'organisation de ce festival ?
Bon, on a un fonctionnement de travail, mais comme c'est un collectif informel, en fait, ça reste relativement fragile, entre guillemets, dans le sens où ça repose quand même vraiment sur la bonne volonté collective de chaque lieu, à la fois de programmer, mais de, ben, y a aussi toujours ces questions financières. Si on a un beau site internet, un beau programme, il faut réussir à tirer une petite ligne de budget pour cette mise en commun, pour faire vivre ce festival et avoir les outils pour communiquer jusqu'au public. Et à l'heure actuelle, ben voilà, c'est jamais chose acquise dans les politiques culturelles des villes ou des... Voilà, il faut... C'est...
Quelles sont vos attentes pour cette édition ?
Et ben, nos attentes, c'est... on espère que la diversité des propositions rencontreront bien sûr leur public, y compris les formes... peut-être les plus exigeantes. C'est vrai que voilà, on prend aussi, on est beaucoup, je pense, à profiter de ce festival pour vraiment aussi prendre des risques artistiques, en fait. Mmh. Vraiment proposer des choses engagées qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement ailleurs, parce qu'il faut aussi cette force collective pour montrer ça, donner une visibilité suffisante pour aller toucher le public. Et voilà. Et donc, on espère voilà, que les pièces... ces pièces-là seront, parce qu'elles le méritent, voilà, toucher le cœur du public.
Et s'il y avait une évolution à remarquer, est-ce que d'année en année, il y a une espèce d'audace qui essaye d'aller toujours de plus en plus loin pour aller titiller des questions qui gênent en fait sur les égalités de genre ?
Peut-être que maintenant, il y a des sujets qu'on aborde plus facilement, mais je pense que l'audace chez les créateurs, elle a toujours été là, en fait. Elle n'est pas bridée. Voilà, c'est plutôt la place qu'on arrive à, à trouver à ces créations dans nos programmations, en fait.
Merci beaucoup, Claire Barbier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc c'était assez dense en information. Où est-ce qu'on peut retrouver la programmation ?
Ben, je vous invite à aller donc, sur le site internet dédié bruismandel.fr où là, vous retrouverez toute la programmation en ligne. Et puis, la page Facebook. On a aussi une page Facebook dédiée bruismandel.
Le festival bruismandel, c'est à suivre de très près tout au long du mois de mars dans plusieurs communes de l'agglomération tourangelle et avec une programmation très complète qui regroupe théâtre, exposition, rencontre, conférence, concert et j'en oublie sûrement. On va passer sur un volet chronique avec la chronique sur Brave New World de No Name. Dans No Name, film, série, jeux vidéo, je suis sorti aller voir hier Captain America Brave New World et voilà ce qu'il faut en retenir.
This was a coordinated terrorist attack, sir.
I was a wartime general. Now I'm a wartime president.
Your inner circle's been compromised. Let me fix it.
Watch yourself. You're not Steve Rogers.
You're right. I'm not.
Pour un budget de 300 millions de dollars, le film est en salle depuis le 12 février 2025 pour une durée de 1h58. Il s'agit du 35e film de l'univers cinématique de Marvel. Au casting, on retrouve Anthony Mackie en Sam Wilson, le nouveau Captain America, Danny Ramirez en Joaquin Torres, le nouveau Falcon, Harrison Ford, le président Thaddeus Thunderbolt Ross en Red Hulk, Tim Blake Nelson en Samuel Stern, le leader, Shira Haas en Ruth Bass Serra, La Sabra, et Giancarlo Esposito en Seth Volker en Sidewinder, le dirigeant de la Société du Serpent. On suit l'histoire de Sam Wilson, aka Captain America, qui peu après avoir fait la connaissance de Thaddeus Ross, le nouveau président des États-Unis, se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. C'est un assez bon film, on passe un bon moment devant. Si on aime les trailers policiers type intrigue internationale et trahison à foison, c'est vraiment fait pour vous. Voilà, j'ai fini, générique. Non, plus sérieusement, on peut le faire passer sous la trappe. C'est un film pour faire un film qui a quand même coûté 300 millions de dollars. Il ne s'inscrit dans aucune continuité dans l'univers Marvel. Le MCU a tenté de nous donner une intrigue plus terre-à-terre avec ce Captain America 4, mais malheureusement, c'est un fourre-tout sans âme et sans moment mémorable. Je m'attendais à mieux, le film étant dans de scie, avec des moments plus rapides, puis une descente plus brusque de l'intrigue. Malgré une prestation des acteurs appréciable et un Red Hulk très propre à l'image, le scénario est presque inutile tant le film ne fait pas avancer le personnage de Sam. j'imagine à cause des nombreux reshoots et ajouts apportés au film qui montrent un problème de ligne directrice au sein de ces Marvel. Effectivement, le film a reçu deux reshoots, un premier en fin 2023 et un second en mai 2024. D'ailleurs, on ne retrouve pas l'essence de Captain America dans ce film. Ross le dit dans le trailer, vous n'êtes pas Steve Rogers. Bah oui, pour le coup, et c'est vraiment bizarre. J'ai plus eu l'impression d'être devant un film Falcon que devant un film Captain America. C'est un héritage qui a été donné par Steve Rogers, qui est mal réalisé dans son écriture et dans sa mise en scène. Je dirais même que la série Falcon et le Soldat de l'Hiver était meilleure et rendait une image plus intéressante de Sam en tant que nouveau Captain America dans l'univers du MCU. En point positif, tout de même, c'est l'utilisation du Céleste dans le film, le nouveau Falcon avec Danny Ramirez qui reprend le costume, et enfin le Red Hulk qui est franchement propre à l'image. Là, je vais spoiler Vénère, la scène post-crédit du film. Alors partez si vous voulez garder le suspense, même s'il n'y en a vraiment pas. Captain America retrouve Sam Western dans la prison du Raft et celui-ci lui dit « Accrochez-vous bien. Je l'ai vu dans les probabilités. Vous les héros qui protégez ce monde, vous pensez être les seuls héros. Vous pensez être le seul monde. On verra ce qui arrivera lorsque vous devrez protéger ce monde des autres. » Voilà à quel point Marvel est perdu. Le seul lien qui rattache ce film aux autres, c'est ça. Une pauvre scène post-crédit après 5 minutes de générique. Une sorte de lanceur d'alerte alors que tout le monde est déjà au courant du multivers depuis 3 films et 5 séries. Le plus drôle, c'est que maintenant on se rabaisse à des probabilités au lieu de nous ramener directement un personnage d'un autre univers ou encore Ant-Man, Spidey, Doctor Strange ou n'importe quel personnage qui a un lien avec le multivers.
Captain America, caught without his wings.
You'd like to play dress up and blindly execute the state's orders.
Don't say I didn't warn you.
What if this is a trap?
You don't even know what this is.
Since when were they red?
You want me? Come and get me!
Clairement, c'est un film dont on aurait pu se passer et qui ne fait pas avancer l'univers Marvel, ainsi que le personnage de Sam Wilson en tant que Captain America. Si vous voulez vous faire votre propre avis, il est au cinéma depuis le 12 février. C'était No Name sur Radio Campus Tour. À la prochaine. C'était la chronique No Name sur Captain America Brave New World. On va se faire un petit volet musique. On va d'abord s'écouter Fantasy de Charlotte Downson.
Almost missed.
Allez, pour le plaisir, je vais mettre une nouvelle chronique No Name sur le Snyder Cut. Bienvenue dans No Name, film, série, jeu vidéo. On parle du sauvetage du DC Universe, le Zack Snyder Justice League. Sorti en 2021, le Zack Snyder Justice League est une version Director's Cut du Justice League proposé par le réalisateur américain Zack Snyder. Un Director's Cut est la version finale d'un film qui a été réellement pensé par son réalisateur en modifiant le montage et en y rajoutant quelques scènes si besoin. Snyder, notamment connu pour les films 300, Watchmen, Les Gardiens ou encore Rebel Moon, il a été pendant presque 10 ans à la tête du projet nommé DC Universe de chez la société de production Warner Bros. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le DC Universe, maintenant nommé le DCEU, Extended Universe, pour les plus anglophones d'entre nous, c'est l'univers cinématographique de DC Comics au cinéma, dans lequel on retrouve les personnages légendaires de Batman, Superman, Wonder Woman, encore plus récemment Aquaman en 2023. Le film est sorti après l'un des plus grands pressings de l'histoire, des manifestations devant les bureaux de chez la Warner et une campagne des fans à chaque release de Snyder Cut sur les réseaux sociaux qui a reçu des milliers de commentaires, jusqu'à même se retrouver avec un spot sur l'avenue de Times Square à New York. Et pour bien tuer le studio de production, Gal Gadot, qui joue Wonder Woman et Jared Leto, le Joker, poste sur X, anciennement Twitter, des photos de tournage avec le hashtag release de Snyder Cut. Alors si même les acteurs s'y mettent, un pressing qui a duré 3 ans, et ça a fonctionné, puisque pris dans un contexte de conflit avec les fans, et même les acteurs, la Warner a été obligée de sortir le film. Et pour le coup, purée quel sauvetage. Allez, parlons du film. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. You were sent here for a reason. 4h02. C'est la durée du film. J'avoue que c'est long, mais quand tu dois reprendre un film qui a été bâché et plusieurs éléments qui ont été oubliés, ça me semble assez légitime. Sa version approfondit les personnages des existants, tout en introduisant de nouveaux comme Flash et Cyborg. L'intrigue est désormais plus logique et plus ancrée dans l'univers de DC, qui nous emmène à théoriser sur l'avenir de nos héros et de leurs prochaines aventures à l'écran. Snyder met en place un univers plus sombre et plus sérieux. Il a cherché à montrer une image plus fidèle aux super-héros, là où le MCU a toujours été, dans la plupart des cas, plus coloré depuis 2009. Ben Affleck donne un ton plus lourd à Batman. Et quand je dis lourd, je parle de sa personnalité. Ce Batman est plus aigri, plus rancunier, on sent qu'il bouillit de l'intérieur après des années de service en tant que Batman. Je pense qu'on se souvient tous de la scène dans Batman vs Superman quand il a laissé une marque au fer rouge à un bandit. On sent qu'il se donne moins de limites. Cet élément-là, on le retrouve directement sur son costume et sa façon de se battre. Il est plus lourd, moins souple, plus lent. Chaque pain qu'il envoie est empli de souvenirs et de rage. Et désormais, il n'exclut pas l'idée de frapper pour abattre. Notamment avec la scène dans le même film, lorsqu'il sauve Martha des mains de Lex Luthor. Superman y passe aussi, avec un costume totalement noir, qui signifie une rupture totale avec certaines histoires qu'il mettait en avant et qu'il représentait dans Man of Steel. De même pour Wonder Woman, qui se bat en tant que guerrière Amazon, mais à quel prix si toutes ses sœurs meurent. Flash qui est en conflit avec lui-même, car elle sait qu'il a les capacités de faire sortir son père de prison. Et enfin, Cyborg, qui se cherche encore avec sa nouvelle identité de super. Tous ces aspects s'entrechoquent et sont totalement bien amenés dans ce Snyder Cut. Il y a quelque chose de plus marquant, de plus personnel dans les versions que nous propose Zack Snyder de nos personnages. Un sauvetage qui a été rondement bien mené, car tous les fans ont approuvé cette version de l'univers DCU, et les critiques sont presque unanimes. Cette version remet la licence sur de bonnes bases. Elle a apporté de la clarté et de l'engagement pour les spectateurs, et aussi des éléments que les fans raffolent. Said the age of heroes would never come again.
We live in a society where honor distant memory. Isn't that right? Batman.
Malheureusement, Warner a abandonné le projet de Zack Snyder, malgré une demande grandissante des fans pour sortir des suites. La PDG de Warner Media précise « Nous sommes tellement heureux qu'il ait pu donner vie à sa propre vision, avec son Snyder Cut, parce que cela ne figurait pas dans nos plans jusqu'à il y a environ un an. » Mais ce film marque l'achèvement de sa trilogie. Encore aujourd'hui, la majorité des fans se sentent trahis par le studio. Une direction prise, mais qui n'est pas sans conséquence lorsqu'on voit les bides qu'ont été The Flash et Shazam. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film car c'est à mes yeux de cette façon que l'on devrait voir les personnages de DC Comics. Des héros aux thématiques complexes plongés dans des intrigues qui forgent l'imagination des spectateurs ainsi que des lecteurs. De plus, cela serait intéressant de le voir avant le reboot qui s'annonce avec le prochain Superman de James Gunn. On pourrait avoir un aperçu du avant et après Zack Snyder. C'était Non Name sur Radio Campus Tour. À la prochaine.
C'était la chronique donc No Name de Samuel sur Snyder Cut, un format toujours efficace. Et donc, puisque l'émission mettait à l'honneur les artistes féminines, nous, on va se quitter sur un dernier titre d'une artiste qui sera donc, enfin, qui est à l'affiche pour Au quart d'hiver et qui sera donc présente ce week-end à Tours. C'est Uzi Freya avec le titre Pick a Side. D'ici là, le podcast de l'émission sera retrouvé sur radiocampustour.com. On se laisse en musique et on vous souhaite une bonne soirée.
I'm a boss queen, you ain't touch me. You can play with me, or if I want it. Tu m'appelles ça, mais t'attends quand je vais t'en. Je mets de l'acide à mes pieds, tu pleures comme le petit. Tous men on my bitches, they like when I play with the smudges. You scream my name on knees, I put mood on the voices. Men act the press, that do everything for press. No time for the shit, bitch, sit and eat my shit.
Pick a side,
yeah, pick a side,
yeah, pick a side.
Done with this kind of man, I play it boss like Superman.
I pick a side,
yeah, pick a side,
yeah, pick a side,
yeah, pick a side.
Calling him a bitch, try to find his skeleton man.
Yeah, bigger, yeah, bigger, yeah, bigger, yeah, bigger,
bigger side.
Radio Campus Tours.